Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, on vous donne des conseils sur vos titres Facebook Ads dans les nouvelles e-commerce. On enchaîne ensuite par une discussion avec Pierre-Anne Rouleau, responsable e-commerce chez l'entreprise The Unscented Company. Bonne écoute! Chronique de la semaine. Il existe de nombreux éléments composant une publicité Facebook. Parmi ces éléments, on retrouve ce qu'on appelle les scroll stoppers, c'est-à-dire les éléments qui arrêtent l'utilisateur dans sa navigation et qui attirent son attention. Et à tous les e-commerçants, je vous invite à bien écouter la chronique, car au moment où on se parle avec le Q4, les publicités Facebook sont d'une importance capitale. Donc maintenant, il y a trois éléments qu'on aimerait attirer votre attention. Le hook, qui est la phrase d'accroche, le visuel, qui est une vignette pour les vidéos ou l'image fixe que vous sélectionnez, le titre, qui est la phrase tout en bas de votre publicité. Tout se joue sur ces trois éléments, car avant même de lancer la vidéo ou de voir l'entièreté de la rédaction, l'utilisateur ne verra que les trois éléments mentionnés. La question évidente est comment peut-on améliorer ces éléments? Mais nous allons y répondre en analysant un seul élément, le titre. Récemment, nous avons compilé plus d'une centaine de titres testés avec leurs résultats sur des e-commerce seulement et nous l'avons utilisé avec l'aide du célèbre outil DIA Chat GPT. Après analyse, voici les leçons qu'il nous donne pour maximiser le taux de clic sur lien. Numéro 1, l'utilisation d'emojis. Les titres avec des emojis semblent avoir un CTR plus élevé. Les emojis attirent l'attention des utilisateurs et rendent le texte plus convivial et attrayant. Numéro 2, éléments d'urgence ou d'exclusivité. Les titres qui indiquent une offre limitée dans le temps ou une exclusivité, par exemple jusqu'à moins 40% d'économie, semblent avoir un meilleur CTR. Cela peut être dû à la sensation d'urgence ou de rareté que ces termes créent. Numéro 3, offre spéciale ou promotion. Les titres qui mentionnent une offre spéciale, un rabais ou une promotion semblent avoir un CTR plus élevé. Numéro 4, le focus sur le client. Les titres qui mettent l'accent sur le bénéfice pour le client, par exemple « Votre chien se sentira mieux » ou qui utilisent un langage de communication directe, par exemple « Ton chien mérite le meilleur », ont tendance à obtenir un CTR plus élevé. Preuves sociales. Les titres qui incluent des preuves sociales comme des notes d'évaluation élevées ou des témoignages de clients satisfaits, par exemple 4,9 étoiles sur 5 ou 100 000 clients satisfaits, semblent obtenir encore une fois un CTR plus élevé. Numéro 6, appel à l'action. Les titres qui contiennent un appel à l'action ou qui indiquent clairement ce que le client peut s'attendre à faire, par exemple déguster les meilleurs fondus, obtiennent généralement un meilleur CTR. Et numéro 7, identification locale. Les titres qui font référence à une localisation ou à un aspect local, par exemple 20 boutiques au Québec, ont tendance à obtenir un CTR également plus élevé. Mais qu'en est-il de la longueur? Car selon les emplacements de diffusion, vos titres ne s'affichent pas en entier. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de notre intelligence artificielle favorite? Pour l'annonceur numéro 1, le titre performant avec 4 mots. Pour l'annonceur numéro 2, le titre le plus performant avec 4 mots également. Pour l'annonceur numéro 3, 4 mots également. Pour le numéro 4, 5 mots. Pour le numéro 6, 5 mots. Pour le numéro 7, 5 mots. Pour le numéro 8, 5 mots. Pour le numéro 9, 6 mots. Pour le numéro 10, 5 mots. Et pour le numéro 11, 4 mots. De ce fait, si vous souhaitez tester des titres, essayez de rester en dessous des 6 mots tout en utilisant les stratégies que nous avons mises en place. De votre côté, commencez à lister vos éléments rédactionnels par performance. À la prochaine pour d'autres conseils Facebook Ads et e-commerce. La force d'une marque réside dans l'association que les clients vont avoir avec votre entreprise. Si vos valeurs sont claires et votre mission l'est également, vous risquez d'être reconnu pour ce que vous êtes réellement et vos clients viendront pour les bonnes raisons. Cette semaine, sur le volet discussion du podcast, on s'entretient avec Pierre-Anne Rouleau, responsable e-commerce pour l'entreprise The Unscented Company, qui se démarque par son approche orientée éco-responsabilité. Pierre-Anne nous explique quels défis on possède pour faire croître ce type d'entreprise en e-commerce et comment vous pouvez mettre le tout en place également de votre côté. Bonne écoute! on est de retour au volet discussion du podcast Commerce et l'été. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Kieran Rouleau, responsable e-commerce de l'entreprise The Unscented Company. Et en plus de croître continuellement d'une année à l'autre, The Unscented Company fut un des premiers acteurs dans le e-commerce au Québec à avoir une approche éco-responsable et surtout une approche durable à travers le temps. Kieran Rouleau, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Mais ça me fait plaisir, merci de l'invitation.
Et Pierre, en avant de discuter un petit peu plus en détail des stratégies marketing de votre entreprise, parce que c'est souvent de ça qu'on parle sur le podcast Commercialite, est-ce que ce serait possible pour toi de nous expliquer un tout petit peu plus en détail ce qu'est The Unscented Company?
Oui, The Unscented Company a vu le jour en 2016. Qu'est-ce qui nous différencie beaucoup, là, c'est qu'on se voit comme étant plus qu'une entreprise qui vend du savon, là. Donc oui, à la base, on fabrique et on vend des produits pour le corps et la maison, naturels, sans fragrance. Mais qu'est-ce qui nous différencie puis qu'est-ce qui fait qu'on veut aller de l'avant puis que l'entreprise et la marque ont vu le jour? C'est vraiment sa mission. Dans le fond, on veut simplifier nos styles de vie et réduire notre impact collectif. Réduire notre impact collectif, on y arrive comment? Ben, on offre des formats de recharge. Donc, ça, depuis le début de la création de l'entreprise, les formats de recharge ont toujours été au cœur de nos développements de produits. Donc, on achète une bouteille une fois qu'on recharge, soit chez un détaillant ou à la maison. À la maison, justement, là, c'est intéressant de voir que les gens l'achètent beaucoup, les formats de 2 litres, 4 litres ou 10 litres, parce qu'en plus d'économiser des plastiques à usage unique, ben, tu économises d'une certaine façon du temps et de l'argent sur le long terme. Dernièrement, on développe beaucoup ce qu'on appelle solutions solides. Donc, c'est sans plastique, sans eau. C'est beaucoup plus compact, efficace et concentré. Donc, c'est un peu ça. Donc, au travers de notre produit, là, on essaie vraiment d'inspirer les gens à changer leurs habitudes de consommation et à leur offrir des produits qui sont vraiment uniques, nécessaires, avec des listes d'ingrédients minimalistes. Donc, c'est vraiment ça, The Unscented Company. Bien évidemment, je peux pas passer par-dessus le fait qu'on est certifié B Corp. Donc, l'entreprise s'est certifiée B Corp en 2015, donc avant la création de The Unscented Company. Fait que déjà à la base, on a toujours suivi les standards de la certification qui sont quand même plus élevés que la moyenne de l'industrie. Puis, c'est vraiment ce qui est cool, c'est que tu vois toutes les sphères de ta compagnie. Donc, oui, ça touche le produit, mais ça va aussi toucher ton impact social, ta gouvernance, tes employés. Donc, c'est vraiment un 360 très complet. Puis sinon, depuis 2021, on est certifié Woman On, mais c'est juste qu'on a obtenu la certification puisque depuis le début, là, la fondatrice est Annie Rouleau, donc seule et unique propriétaire de l'entreprise. Puis, on est aussi certifié Leaping Bunny. Cette certification-là touche le fait qu'aucun de nos produits n'est testé sur les animaux. Donc, c'est un aspect qui est très important pour nous. Donc, c'est nos produits sont véganes par le fait même. Ça fait pas mal le topo de qui on est, là. Je pourrais en parler longtemps, mais je pense que les grandes bases sont là, là.
Bon, donc on est capable de voir une organisation qui embrasse ces différentes certifications-là, qui sont propres à vous. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec The Unscented Company, c'est que cette mission, ce qui vous habite un petit peu en tant qu'organisation, c'est là depuis le jour 1. Moi, j'avais eu la chance de parler avec Annie sur notre autre podcast, Hypercroissance, et dans sa réflexion pour lancer l'organisation, dans sa mission qu'elle voulait atteindre, clairement, c'est pas quelque chose qui s'est juste intégré à un certain moment donné en disant « Hey, on a besoin d'un coup de marketing, on veut changer notre approche. » Non, c'était à la base partie de la fondation de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Maintenant, Pierre-Anne, malheureusement, dans les dernières années, soyons honnêtes, il y a beaucoup d'organisations qui ont sauté sur le mouvement éco-responsable et tout ce que ça implique sans véritablement embrasser la cause pour les bonnes raisons. Et ma question pour toi serait la suivante. En 2023, est-ce qu'un commerce en ligne a vraiment besoin de faire quotidiennement pour être réellement éco-responsable et réellement une organisation durable à travers le temps, selon toi?
Là, c'est sûr qu'on parle de l'aspect e-commerce, mais je crois que ça va au-delà de simplement le commerce en ligne. Puis moi, mon point de départ serait de voir votre mission, de la revoir, de l'analyser, puis de voir à la base là, votre ADN d'entreprise. Est-ce qu'elle a un purpose éco-responsable? Est-ce qu'elle a un désir de changer des choses positivement, d'avoir un impact, que ce soit environnemental ou social? Parce que souvent, on dit éco-responsable touche que l'environnemental, mais l'aspect social est quand même très important. Puis pour nous, ça fait partie de notre ADN et comment qu'on travaille et qu'on fait notre marketing également. Puis c'est vraiment, ça va au-delà de juste son site transactionnel. C'est vraiment de revoir chaque étape du processus d'achat et aussi du processus de fabrication. Et pour voir nos fournisseurs, est-ce ce qu'on a en ce moment peut nous permettre de passer vers cette transition-là? Est-ce qu'ils ont envie, les moyens, les ressources? Et ensuite, c'est de regarder ces matières premières. Là, ça dépend. On peut parler du vêtement. Nous, on est dans les produits corporels ou la maison. Mais même un service, ces matières premières, ce qu'on utilise, est-ce que déjà, à la base, on a une conscience d'avoir des produits qui sont plus éco-responsables, d'avoir des produits qui sont plus près de chez nous pour réduire notre empreinte aussi au niveau des déplacements, de la livraison, etc. Il y a l'emballage. Et nous, l'emballage, ça a été vraiment au cœur du développement de l'entreprise. Là. Annie, c'est souvent un voyage en Australie qu'elle faisait de la plongée sous-marine, puis elle a vu les déchets de plastique dans l'océan, puis ça l'a particulièrement marqué. Fait qu'elle, à la base, elle s'est dit, moi, je veux réduire mon impact plastique. C'est pour ça que, dès le départ, on avait des produits qui nous permettaient de réduire notre impact. Fait que c'est sûr que l'emballage, je pense que toutes les entreprises avec un produit de vente ont un emballage. Nous, on a développé, on réutilise toutes les boîtes de carton dans le fond d'une machine qui les shred un peu. Donc, ça fait ouais. qu'on peut rembourrer avec ça nos boîtes qui partent chez nos clients au lieu d'utiliser du papier bulle en plastique ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que c'est quand même c'est quasiment plus une tendance, c'est quasiment une nécessité de commencer à réfléchir comment on peut avoir cette transition-là parce que le client, c'est ce qu'il demande et c'est ce qu'il regarde.
Ben, soyons honnêtes, je pense que c'est devenu une tendance, Pierre-Anne, grâce un petit peu à des acteurs comme vous et d'autres qui ont donné un peu la voix à tout ça parce que ça peut, et je pense fondamentalement que d'ici 1 à 2 ans, ça va être un acquis. Mais ce n'était pas auparavant. Il fallait qu'il y ait des premiers acteurs qui se montent le bout du nez, là.
Oui, parce que c'est sûr qu'au départ, c'est pas toujours facile. Puis il y a toujours l'aspect, on est quand même, tu sais, puis ça, la certification B Corp le mentionne bien, mais en fait, on veut faire des profits, là, quand même. Au bout de la ligne, on peut pas survivre si on n'a pas de profits à la fin de l'année. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Mais comment qu'on peut le faire différemment en suivant le consommateur? Je me rappelle, avant même la création de The Untented Company, nous, on avait une autre marque de commerce qui était OH. C'était vraiment plus du B2B à ce moment-là. Puis déjà, en partant, Annie, elle avait ses formats de recharge. Elle avait lancé des pastilles plus compactes et concentrées. Puis les pastilles, à ce moment-là, les gens n'étaient pas prêts. Donc, on revient, puis là, on voit que c'est comme, c'est le temps. On est encore innovant avec cette temps-là. Mais là, le consommateur est un peu plus prêt à emboîter le pas. Et c'est toujours de trouver un peu cette balance-là de, oui, je veux être plus éco-responsable, plus conscient de mon environnement, mais garder en tête que, OK, mon client, il est rendu où dans ce processus de réflexion-là ou dans ce changement-là? Puis en fait aussi, quand on tombe dans cet univers-là, après, tu tombes dans les corps, puis les passionnés ou les intenses de l'environnemental. Fait que quand tu dis des choses ou que tu fais des promesses, walk the talk. Parce que tu vas arriver avec une clientèle qui va être souvent parfois plus informée que toi. Donc ça, à garder en tête au niveau de votre stratégie et d'être vraiment bien préparé. Et quand vous faites des changements, de les communiquer, mais pas communiquer des changements soit qui s'en viennent, qui sont pas réels. Puis au niveau de la, si je termine, mettons avec ça, c'était au niveau là, je pense que qu'est-ce que les gens veulent plus entendre, c'est la stratégie de vente. Ok, qu'est-ce que je fais au niveau de mes promotions, comment que je peux comme promouvoir cette transition-là ou quoi que ce soit. Pour nous, ça passe énormément par la communauté, puis on vend beaucoup plus un style de vie qu'un produit. Puis je pense que dans cet univers-là, c'est ce que les gens recherchent. Et on peut pas nommer des exemples super concrets qui font bien les choses, mais un Patagonia de ce monde qui est dans les premières entreprises à avoir été certifiée B Corp. Comme nous, ça fait partie de son ADN. C'est le core de sa business. Il ne veut pas vendre pour vendre. Il veut vendre parce qu'il y a un besoin, qu'il y a une niche précise, puis il va s'assurer que ses matières premières sont bien choisies, que ses fournisseurs avec qui il travaille ont la même éthique que lui. Donc, ça demande plus de recherche, ça demande plus de temps, mais c'est un peu ça, c'est de viser le long terme. Là, tu es sur le long shot plus que le short term.
Bien, je pense que ça fait partie des fondamentaux qu'une organisation se doit d'avoir si elle embrasse un petit peu cette vision-là. Et je pense que c'est important de le dire. Il va y avoir des pertes à court terme. Et on va laisser de l'argent sur la table, sur plusieurs endroits. Mais sur le long terme, on est capable d'avoir une organisation pérenne. On est capable également de générer des profits. Et corrige-moi si je me trompe, plus souvent qu'autrement dans l'histoire de votre organisation, quand vous faites des initiatives marketing, on va en parler dans quelques minutes, des fois, vous devez vous dire, oui, volontairement, on laisse de l'argent sur la table pour respecter, pour embrasser encore plus notre mission d'entreprise.
Oui, je pense que c'est le plus grand défi, c'est de se ramener à sa mission, ses valeurs, puis de rester authentique puis honnête envers qui on est. Puis ça, c'est quand même un grand défi. Puis juste vous donner un exemple, là, le fameux Black Friday dont tout le monde parle en ce moment. Nous, si on se ramène au début de l'entreprise, on s'est même posé la question, est-ce qu'on embarque là-dedans? On en voit beaucoup aujourd'hui, là, justement, des marques qui décident de pas le faire ou de le faire différemment. Puis ça, c'est ce qui est intéressant, je crois. Puis moi, dernièrement, là, justement, on en parlait au début, puis là, j'écoute podcast, j'assiste à des présentations et tout. Puis là, on est rendu qu'on parle du November, du Black November.
Black November.
Puis c'est sûr que si tu écoutes tout le monde, oui, tu vas aller chercher plus de ventes parce que c'est décalé sur plusieurs jours. Donc, tu as plus de points de contact. Mais nous, est-ce que c'est vraiment, ça fait partie de nos valeurs? Est-ce que ça fait partie de qui on est? Tu sais aussi, il y a toute la notion de dilution de ta marque. Après ça, d'avoir un produit naturel fabriqué au Québec, ça coûte plus cher à produire. Donc, la valeur de notre produit est censée avoir la même valeur auprès de nos consommateurs. Donc, tu sais, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Que ce soit là, il faut garder vos marges de profit. L'industrie dans laquelle on est n'a pas les mêmes marges de profit que l'industrie du vêtement, par exemple. Mais tu sais, là, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est la période de l'année qui me challenge le plus dans qui on est et où ce qu'on veut aller. Mais après ça, ce que je trouve le fun, justement, en tant que marketeur, c'est que ça m'amène à revoir nos stratégies, à c'est pourquoi on fait le Black Friday. Il y a quand même une raison. C'était nous, on veut offrir nos solutions au plus de gens possible. Puis d'offrir un rabais, ben ça enlève un certain frein à l'achat pour un nouveau consommateur. Donc, on va juste avoir un plus grand impact. On va encore plus réduire notre impact collectif si plus de gens consomment des formats de recharge et des formules solides.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Élite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Et bon, parlons-en un petit peu. Donc, on va parler de marketing, on va parler de publicité, on va parler peut-être même de calendrier de contenu, plus que de calendrier promotionnel, soyons honnêtes, si on veut respecter un petit peu la vision de l'organisation ici. Et c'est une discussion que toi et moi, Pierre-Anne, on avait à l'extérieur du podcast, c'est-à-dire, toi, c'est ça rend ton travail plus complexe parce que si on a cette même mission et vision d'organisation dans une entreprise qui a un modèle d'affaires sur le service qui, disons, habituellement, ne va pas nécessairement faire des promotions, on est dans de la prestation, mais embrasser cette mission-là, c'est un petit peu plus facile Parce que dans le service, on n'aura pas de calendrier promo, on va pas avoir de Black Friday, on va pas faire de flash sale. Mais dans l'e-commerce, c'est la base même, plus souvent qu'autrement, d'une organisation en ligne qui va réussir ces fameuses ventes flash qui existent depuis la nuit des temps. C'est Black Friday, c'est Cyber Monday, ce temps des fêtes. Et là, toi, tu te retrouves en tant que marketer pour une organisation comme The Unscented Company. Tu as plusieurs réflexions à te poser, comme tu nous l'as mentionné. Et si on parle maintenant d'action et d'exécution, sur les 12 derniers mois, disons, à quoi ça ressemble un peu ce calendrier promotionnel-là, ces initiatives ponctuelles qu'on met en place pour générer des ventes?
En fait, nous, on a 4 promotions par année. Puis on s'en tient à ça parce que nos promotions arrivent à des moments où il y a une raison d'être et qu'on vient répondre à notre mission. Donc, si on parle de le jour de la Terre, donc nous, à ce moment-là, on va promouvoir tout ce qui est formule solide ou format de recharge. Par la suite, on a une promotion. C'est sûr qu'on va avoir une promotion durant l'été. Souvent, c'est des périodes un peu plus tranquilles, mais il y a le Plastic Free July qu'on appelle. Donc là, on promouvoit nos solutions sans plastique. C'est quand on fait une promotion, ça nous permet d'éduquer notre consommateur d'une certaine façon également. C'est pas juste dans l'optique de vendre un produit, c'est de vendre un style de vie. Là. Je me répète, là, mais tu sais, mes buzzwords sont les mêmes parce que c'est ce que je me dis à chaque fois qu'on veut faire une initiative. Puis après, ce qu'on remarque, nous, de faire ça, oui, on a des booms de vente à ce moment-là, mais on a des nouveaux clients. Mais après ça, on a un returning customer. Je pense que qu'est-ce qui nous aide? C'est que nous, notre returning customer est très élevé. Puis on peut compter là-dessus. Puis je pense que souvent, c'est un métrique qu'on oublie. On est souvent en acquisition de nouveaux clients. C'est ça aujourd'hui. Là. Tu vas aller chercher des nouveaux clients, des nouvelles ventes. Et si ce nouveau client-là vient seulement une fois, c'est de l'énergie constante. Nous, on peut travailler à nurturer notre audience actuelle tout en travaillant à aller chercher de l'acquisition parce qu'on veut faire briller la marque. On veut aller chercher des nouvelles personnes. Mais c'est ça que moi, je trouve qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des gens qui nous connaissent, qui reviennent. Puis ça, là, ça a tellement de valeur. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on peut se permettre de faire 4 promotions par année, de pas être en Black November, mais vraiment s'en tenir peut-être à 5 jours de promotion. Parce que oui, on va aller jouer avec l'aspect VIP, etc., pour justement récompenser tous ces consommateurs-là qui reviennent fréquemment sur notre site, mais tout en offrant un rabais pour des clients qui disent « Ah, crème, je veux l'essayer, c'est peut-être plus accessible pour moi en ce moment à ce prix-là. » Et après ça, ben c'est de s'assurer d'avoir une promesse à laquelle tu peux répondre réellement. Puis c'est sûr qu'après ça, l'efficacité du produit va jouer. Là. Surtout dans notre industrie, c'est bien beau avoir un produit avec une super belle étiquette, des belles valeurs et tout. Si ça ne fonctionne pas, tu n'auras pas un client qui va revenir. Fait que ça, ben là, c'est merci à nos chimistes et à l'équipe de R&D qui travaille très fort à ce niveau-là, mais nous, il faut le communiquer cet aspect-là.
Intéressant. Donc, ce que je comprends, et corrige-moi si je me trompe, j'ai pas envie de mettre des mots dans ta bouche ici, mais quand vous faites l'acquisition d'un client chez The Unscented Company, en dehors de simplement des promotions que vous allez faire quelques fois par année, vous êtes capable de voir que le retour, le lifetime value de votre client, donc c'est ça qu'on voit hein, littéralement, Pierre-Anne, c'est que quand vous faites l'acquisition de clients, le lifetime value de ce même client-là chez The Unscented Company, sachant que vous ne cherchez pas ce client à rabais, les clients reviennent. Est-ce que vous avez des chiffres précis qui vous montrent tout ça? Parce que ça peut être une belle information pour les gens qui nous écoutent.
Oui, dans le fond, les clients reviennent. Et moi, là, cette année, ce que je trouve super intéressant, c'est de voir qu'on est dans une situation économique qui est quand même assez particulière. On est tout un peu sur une corde qui branle. Là. On sait pas trop de quel bord ça va aller, mais pour nous, moi, en ce moment, je vois aucune diminution de mes ventes sur le site en ligne si je compare à l'année passée, parce que mon returning customer est en augmentation. Là, sur l'année, je suis autour d'un 10% d'augmentation de returning customer. Par la suite, mon panier moyen est en augmentation de 5%. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, c'est quand on travaille avec des gens, des consommateurs qui te connaissent, ils reviennent, ils veulent acheter un nouveau produit. Et tu sais, là, cette année, on a lancé une nouvelle gamme pour enfants. Bon, tu sais, c'est des produits qui s'ajoutent au panier. C'est quand même des métriques que moi, je trouve super importantes à garder en santé. Tu sais, des fois, tu vois peut-être un mois qui est en diminution au niveau de tes ventes globales, mais si ton returning customer, ton panier moyen puis ton taux de conversion vont bien, ben, tu te dis, ah, j'ai peut-être eu moins de trafic. Tu sais, là, après ça, tu sais, tout le temps, tout ça à regarder. Mais si au moins les gens qui viennent sur ton site, tu consommes. C'est justement ce que je trouve intéressant, c'est que notre taux de conversion a été un métrique qui, avant, était plus difficile à garder en santé, qui n'était pas si élevé. Puis en ce moment, comparativement à l'année passée, j'ai une augmentation d'un 0,5%. Pas un énorme pourcentage, mais quand même, ça veut dire que on commence à avoir aussi une stratégie parce que je vais pas vous mentir, j'ai une stratégie de paid advertising. Là. Je suis sur Meta et sur Google. Mais là, je me rends compte que nos dernières années d'analyse et de pratique et de tests font en sorte qu'on commence à cibler des gens qui ont un réel désir de changer leurs habitudes de consommation.
Fascinant tout ça. Et bon, on le voit, au-delà de faire du bien, d'avoir une bonne mission, d'avoir une bonne vision et qui, ultimement, j'imagine, ça nous aide à mieux dormir la nuit, de savoir qu'on est capable de faire du bien dans le monde. Et finalement, économiquement parlant, ça fait en sorte que même les clients reviennent, ils vont peut-être dépenser un petit peu plus chez nous avec les métriques que tu viens de nous donner. Donc, point très intéressant à garder en tête pour notre audience. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent, j'ai peut-être pas eu l'instinct comme Annie a eu quand elle a lancé son organisation d'avoir cette mission éco-responsable d'entreprise durable dès le jour 1. Comment qu'on fait, selon toi, bien entendu, et tu me pardonneras de l'anglicisme, mais le switch aujourd'hui pour retrouver, ou plutôt pour embrasser cette vision durable et éco-responsable, par où on commence?
Je vais revenir quand même au même point de départ, je pense, qui est de revoir ta mission. Puis c'est ça que y a des grandes entreprises qui font des rebranding, puis des repurpose. Mais la mission, c'est ton ADN. Fait que t'sais, je crois que quand tu veux faire cette transition-là, il faut que tu sois prêt à faire cette transition-là et de trouver ton, dis le why, le pourquoi tu veux le faire. Je pense que c'est inévitable. C'est la première étape. Parce que si tu y crois pas, ben, tu vas avoir de la misère à vouloir faire des changements, à vouloir peut-être dire non à des stratégies d'acquisition, des stratégies marketing plus agressives. Fait que moi, ça serait vraiment la première étape. Et ensuite, ben, c'est de revoir toutes les stratégies et les tactiques que tu as fait dans le passé. Là, si tu es une entreprise qui a des années derrière la cravate, ben, justement, tu as plein d'éléments à analyser, à regarder, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Mais là, d'ajouter cet aspect-là de « OK, je veux faire ça. Est-ce que ça répond soit à ma nouvelle mission, ma nouvelle transition dans une pratique plus éco-responsable, socialement ou environnementalement parlant? » Puis les analyser, puis de se demander si elles sont éthiques, sont transparentes, sont dans l'intérêt de ton consommateur. Je pense que des entreprises sont éco-responsables ou sont très customer-centric aussi parce que, dans le fond, tu veux pas vendre pour vendre, tu veux réellement répondre à un besoin. Les clients sont rendus tellement de plus en plus informés, là, plus que nous.
Bien sûr.
Des fois, ça en est quasiment effrayant, mais en même temps, tu peux apprendre de tes clients, puis je pense que c'est de rester à l'écoute de leurs besoins, de leurs questions, quand ils critiquent soit un ingrédient ou une pratique quelconque, c'est de voir, OK, est-ce qu'il y a raison? Est-ce que, ah non, moi, je le fais, puis c'est dans un intérêt positif. Tu sais, je pense que c'est beaucoup de réflexion là, à la première étape. Et après ça, c'est vraiment d'être capable de décider de prendre part ou non dans les mouvements, que ce soit des promotions. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, tout peut être rendu une possibilité de faire une promotion, que ce soit la Saint-Valentin, Pâques ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, si tu es tout le temps en promo, ton client ne va jamais t'acheter à plein prix aussi. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on est en santé et qu'on a des profits, c'est qu'on vend plus souvent qu'autrement nos produits à plein prix parce qu'il y a une valeur derrière ce produit-là, que ce soit dans les ingrédients qu'on choisit, les fournisseurs avec lesquels on décide de travailler. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu très bien à la question.
C'est excessivement clair. Excessivement clair. Et bon, pour terminer peut-être un peu, Pierre-Anne, les 12, 24, les 36 prochains mois pour The Uncertain Company, quels sont les gros projets marketing? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place?
cette question-là, là, je vais être transparente avec toi. C'est elle qui me... Je suis comme, OK, elle fun, là. Mais en même temps, c'est dur à répondre. C'est quoi les prochains gros projets? Ben là, à court terme, mettons, le fait de voir qu'on a un returning customer qui est très élevé, on voit vraiment le potentiel d'avoir un referral program qui est en place. Parce qu'on, ben en fait, on sait que les gens qui nous aiment, nous consomment, reviennent. Donc, tu as un peu envie de partager la bonne nouvelle. C'est comment qu'on peut récompenser nos clients actuels et aller chercher de l'acquisition, mais que ça reste dans bouche à oreille, de l'authenticité. Donc, tu sais, ça m'amène à dire l'aspect communauté pour Unsettled est tellement important. Puis, on a commencé quand je suis arrivée, là, ça va faire bientôt 3 ans. J'ai pris en charge, en plus de mon rôle actuel, le développement de la communauté. Puis même si on pense que c'est très deux chapeaux différents, reste que la communauté m'amène des gens sur notre site, amène des gens en magasin et je vois l'impact de grandir cette communauté-là authentique à travers des gens qui nous utilisent réellement. Ça va avoir un impact. En fait, ça a déjà un impact super positif puis ça fait rayonner la marque d'une autre façon que juste par des promotions ou du paid advertising, par exemple. Donc, c'est sûr que moi, ça, c'est un gros chantier qu'on a déjà entamé, mais qu'on va poursuivre et qu'on va mettre de l'énergie. Au niveau marketing, ben c'est sûr que depuis au moins 2 ans, là, nous, on a le développement du marché américain. Donc, ça, c'est un autre défi de voir comment on peut percer ce marché-là. L'année passée, on avait quand même mis les bouchées comme double. Et toutes nos énergies sur le développement des États-Unis. Puis on s'est rendu compte, oups, on oublie un peu notre pays d'origine, qui est le Canada et le Québec. Et quand on est revenu, c'est ça qui est intéressant, mais on avait quand même semé des graines. Et là, moi, je vois l'impact parce qu'en ce moment, à chaque mois, je suis en augmentation de mon pourcentage de vente aux États-Unis. Donc, clairement que ça a fonctionné. Puis, on n'a pas des gros budgets là, au marketing comparativement à ce qu'on parle, mais bon, ça nous demande d'être plus créatifs. Puis, ça nous demande de travailler justement, là, l'année passée, j'avais fait beaucoup de recherches au niveau de communautés clés aux États-Unis. Puis, je vois que c'est ce qui nous amène des clients, c'est ce qui nous fait découvrir parce que ben eux ont déjà une audience, ils sont connus. Ils ont une certaine crédibilité, donc c'est ça. Puis après ça, oui, le développement de nouveaux produits. T'sais, nous, en ce moment, là, on est vraiment dans un mindset qu'on dit « the future is solid », donc le futur est solide. C'est vraiment dans le développement de produits qui sont sans plastique, sans eau et contact. Donc, tu sais, nous, on va être grandement impliqués dans ça parce qu'il va y avoir énormément d'éducation à faire auprès de ces nouveaux produits qui sont un peu méconnus des clients.
Fantastique. Écoute, une très belle mission, une très belle organisation que tu fais partie, Pierre-Anne. Félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Parce que clairement, je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens qui nous écoutent. Si on veut en savoir un petit peu plus sur vous, The Unsettled Company, meilleur endroit pour vous rejoindre, j'imagine?
Notre site en ligne, on vient juste de le refaire. Donc, ça fait un mois qu'il a été lancé. Puis, on est vraiment, vraiment content du résultat. Je pense que quand tu rentres sur notre site maintenant, tu comprends très bien qui est The Unsettled Company, quelle est notre mission. Mais après ça, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voyage à travers aussi tout notre impact, que ce soit environnemental, social. Donc, on a aussi maintenant une page par rapport à la communauté. Donc, c'est le meilleur point de contact, mais sinon, je suis toujours ouverte à connexion LinkedIn, donc Pierre-Anne Rouleau, Annie Rouleau, en fait, tous les gens chez Unsettled sont très ouverts. On est toujours contents d'aller prendre un café ou de parler de marketing, de responsabilité sociale, puis c'est vraiment au cœur de qui on est. Là.
Fantastique, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Pierre-Anne Rouleau, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un entretien très intéressant et fascinant. Allez jeter un petit coup d'œil au site web de The Unsettled Company. Ça vaut la peine d'en savoir un petit peu plus sur l'entreprise. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercible.